Chapitre 3. Il entra, vociférant de terribles jurons, et il me surprit en train de cacher son fils dans le buffet de la cuisine. Hareton éprouvait la même terreur devant l'affection sauvage ou la fureur folle de son père. Et en effet, dans l'un des cas, il courait chance d'être étouffé à mort sous ses embrassements, et dans l'autre, d'être jeté au feu ou lancé contre le mur. Aussi la pauvre créature restait-elle parfaitement tranquille partout où il me plaisait de la mettre. « Enfin, je l'ai trouvé !» cria Hindley en me tirant en arrière par la peau du cou comme un chien. « Par le ciel et l'enfer, vous avez juré entre vous d'assassiner cet enfant. Je sais maintenant comment il se fait que je ne le vois jamais. Mais avec le secours de Satan, je vous ferai avaler le couteau à découper, Nelly. Vous n'avez pas besoin de rire, car je viens justement de fourrer Kenneth, la tête la première, dans le marais de Black Horse. Et deux est la même chose qu'un seul, et j'ai besoin de tuer quelqu'un d'entre vous. J'aurai pas de repos que je me l'ai fait. Mais je n'aime pas le couteau à découper, monsieur Hindley, répondis-je. Il a servi à couper des rouges. J'aimerais mieux être fusillé, si vous le voulez. Vous aimeriez mieux être damné, et c'est ce que vous serez. Il n'y a pas de loi en Angleterre qui puisse empêcher un homme de tenir sa maison propre, et la mienne est abominable. Allez, ouvrez votre bouche !» Il tenait le couteau dans sa main et poussait sa pointe entre mes dents. Mais pour ma part, je n'étais jamais bien effrayé de ses folies. Je crachais, et j'affirmais que le couteau avait un goût détestable, que je ne voudrais le prendre pour rien au monde. « Bon !» dit-il en me lâchant. « Je vois que ce hideux petit vilain n'est pas Harton. Oh, je vous demande pardon, Nelly. Si c'était lui, il mériterait d'être écorché vif pour ne pas courir vers moi, me souhaiter la bienvenue et pour hurler comme si j'étais un gobelin. Petit ours sans cœur, viens ici !» « Je t'apprendrai à tromper un tendre père. »« Eh bien, croyez-vous pas que le garçon serait plus joli si on le tondait, si on lui coupait les oreilles ?»« Cela rend un chien plus farouche, donnez-moi des ciseaux. »« Quelque chose de farouche et de propre. »« Sans compter que c'est une affectation infernale, une vanité diabolique de tenir à nos oreilles. »« Nous sommes suffisamment... des ânes sans ailes. Et silence, enfant, silence. Oh, et quoi, c'est mon chéri. Sèche tes yeux. Voilà une joie, embrasse-moi. Et quoi, il veut pas? Baise-moi, Hareton, baise-moi, damnation. Eh, pardieu, on voudrait que j'aime un tel monstre. Aussi vrai que je suis vivant, je vais casser le cou de ce marmot. Le pauvre Hareton piaillait et se débattait de toutes ses forces dans les bras de son père. Il redoubla ses cris lorsqu'il se vit emporté sur l'escalier. Je me mis à crier qu'il allait effrayer l'enfant. Il lui donnait des convulsions et je courus à sa ressource. Au moment où je m'approchais d'eux, Hindley s'appuyait sur la balustrade, penché en avant, écoutant un bruit au-dessous de lui. Il avait évidemment oublié ce qu'il tenait dans ses mains. « Qui est là ?» demanda-t-il, entendant quelqu'un s'approcher du pied de l'escalier. Moi aussi, je me penchai en avant, car j'avais reconnu le pas de Heathcliff, et je voulais lui faire signe de ne pas avancer. Mais au moment même où je cessais de le regarder, Hareton fit tout à coup un saut, se délivra de la main insouciante qui le retenait et tomba. À peine nous eûmes le temps d'éprouver un frisson d'horreur, que déjà nous vîmes que le petit malheureux était sain et sauf. Heathcliff arrivait au-dessous de l'escalier juste au moment critique. Mu par une impulsion instinctive, il arrêta l'enfant dans sa descente, et l'ayant mis à terre sur ses pieds, leva la tête pour découvrir l'auteur de l'accident. Un avare qui s'est débarrassé pour 5 shillings d'un billet de loterie et qui découvre le lendemain qu'il a perdu au marché 5 000 livres, ne peut pas faire une figure plus désolée que Heathcliff en apercevant au-dessus de l'escalier M. Earnshaw. Plus clairement que ne l'auraient pu des paroles, le visage de Heathcliff s'incrinait, une angoisse intense d'avoir lui-même laissé se perdre une occasion de vengeance. S'il avait fait nuit, je crois bien qu'il aurait essayé de réparer sa faute en écrasant la tête d'Ayrton sur les degrés. Mais nous avions été tous témoins de son salut, et déjà j'étais en bas avec ma précieuse charge pressée contre mon cœur. Hindley descendait plus lentement, désolé, ahuri. « C'est votre faute, Hélène, me dit-il. Vous auriez dû le garder loin de ma vue, vous auriez dû me le retirer des mains. Est-ce qu'il est blessé ?»« Blessé ? » m'écriai-je furieuse. « Mais s'il n'est pas tué, il en restera idiot pour la vie. Oh ! Je m'étonne que sa mère ne se lève pas dans son tombeau pour voir de quelle façon vous en usez avec lui. Mais vous êtes pire qu'un païen. Traiter de cette façon votre chair et votre sang. » Il essaya de toucher l'enfant, qui, se trouvant maintenant avec moi, avait tout de suite fini d'écouler sa terreur en sanglots. Pourtant, au premier doigt que son père mit sur lui, il se reprit à crier plus fort qu'auparavant et à se débattre comme s'il allait entrer en convulsion. « Vous ne le toucherez pas, » continuai-je. « Il vous hait. Tout le monde ici vous hait. C'est la vérité. Une heureuse famille que vous avez et un bel état où vous êtes arrivé. J'arriverai encore à un plus beau, Lely, » ricana cet homme égaré qui avait recouvré sa dureté naturelle. « À présent, emmenez-moi loin d'ici vous-même et cet enfant. Et vous, Heathcliff, écoutez, éloignez-vous aussi. Toute affaire de prise de mes mains et de mes oreilles, je ne voudrais pas vous tuer ce soir, si ce n'est peut-être en mettant le feu à la maison, mais cela dépendra de ma fantaisie. » En parlant ainsi, il prit une bouteille de brandy dans le dressoir et s'en remplit un verre. « Non, non, ne le faites pas, suppliai-je. Monsieur Hindley, prenez garde. Ayez pitié pour cet infortuné garçon, si vous n'avez aucun souci de vous-même. »« N'importe qui vaudra mieux pour lui que moi, » répondait-il. « Ayez pitié de votre âme, » lui dis-je, essayant de lui arracher le verre des mains. « Non pas, au contraire, j'aurais grand plaisir à l'envoyer à la perdition. » « Histoire de punir son auteur !» cria le blasphémateur. « Voici pour sa parfaite damnation !» Et il but l'eau de vie, nous en donnant avec impatience de nous en aller, concluant cet ordre par une série d'horribles imprécations, si affreuses que c'est à peine si j'ose me les rappeler. « C'est grande pitié qu'il ne puisse pas se tuer lui-même à force de boire !» observa Heathcliff, murmurant à son tour des malédictions quand la porte fut fermée. « Il fait bien tout ce qu'il peut dans ce but, mais sa constitution est plus forte. Monsieur Kenev dit qu'il parierait sur sa jument que ce monstre survivra à tout le monde de ce côté de Jim Burton et ne s'en ira à la tombe que comme un pécheur couvert d'années. À moins que quelque heureux hasard l'abatte en dehors du cours des choses ordinaires. » J'allais dans la cuisine et je m'assis pour faire dormir mon petit agneau. Je supposais que Heathcliff s'en était allé dans la grange. Mais j'appris plus tard qu'il s'était contenté d'aller à l'autre côté de la chambre et que là, il s'était abattu sur un banc, adossé au mur, loin du feu. Il y était resté sans rien dire. J'étais occupé à bercer Ayrton sur mes genoux, en fredonnant une chanson, lorsque Miss Cathy, qui m'avait entendu de sa chambre, passa la tête à la porte et murmura « Êtes-vous seule, Nelly ?»« Oui, miss, » répondis-je. Elle entra et s'approcha du foyer. Je la regardais, supposant qu'elle allait me dire quelque chose. L'expression de sa figure semblait embarrassée et anxieuse. Ses lèvres étaient à demi entr'ouvertes, comme si elle voulait parler, mais au lieu d'une phrase, c'est un soupir qui s'en échappa. Je n'avais pas oublié cette conduite récente et je repris ma chanson. Où est Heathcliff? Dit-elle, m'interrompant. Oh, son ouvrage, dans l'étable, lui répondis-je. Heathcliff ne me contredit pas. Peut-être s'était-il assoupi. De nouveau suivit un long silence, pendant lequel je vis une larme ou deux descendre de la joue de Catherine et tomber sur le plancher. Aurait-elle un regret de sa honteuse conduite, me demandai-je. Voilà qui serait nouveau. Mais elle fera comme elle voudra pour arriver à son sujet, je ne l'y aiderai pas. Mais non, elle ne s'inquiétait guère d'aucun sujet, sauf de ce qui la touchait elle-même. « Oh, cher, fit-elle, je suis très malheureuse. »« Quelle pitié, vous êtes difficile à satisfaire. Tant d'amis et si peu de soucis, vous ne pouvez pas vous tenir pour contente. »« Nelly, voulez-vous me garder un secret ?» poursuivit-elle, s'agenouillant auprès de moi et levant sur moi ses yeux caressants avec un de ces regards qui chassent la mauvaise humeur lors même qu'on a les meilleures raisons pour s'y laisser aller. « Votre secret vaut-il la peine qu'on le garde ?» demandai-je d'un ton moins maussade. « Oui, et il me tourmente, et il faut que je m'en épanche. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Edgar Linton m'a demandé aujourd'hui d'être sa femme et je lui ai donné une réponse. Mais avant que je vous dise si cette réponse a été un consentement ou un refus, « dites-moi, vous, ce qu'elle aurait dû être. »« En vérité, Miss Catherine, comment puis-je le savoir ?» répondis-je. « Si je songe à la manifestation que vous avez faite en sa présence cet après-midi, je peux dire à coup sûr qu'il aurait été sage pour vous de le refuser. Car pour avoir demandé votre main après cette scène, il faut qu'il soit ou désespérément stupide, ou bien le plus téméraire des fous. Si vous parlez de cette façon, je ne vous dirai plus rien, répondit-elle aigrement en se relevant. J'ai accepté sa demande, Nelly. Bien vite, dites-moi si j'ai eu tort. Vous l'avez accepté, alors à quoi bon discuter ce sujet? Vous avez engagé votre parole et ne pouvez pas la retirer. « Mais dites, j'ai eu raison de le faire, dites !» s'écria-t-elle, d'un ton irrité en tordant ses mains et en fronçant ses sourcils. « Il y a bien des choses à considérer avant de pouvoir répondre convenablement à cette question. D'abord et avant tout, aimez-vous, monsieur Edgar ?»« Pas qu'il peut y remédier, naturellement je l'aime, » répondit-elle. Alors je lui fis subir l'interrogation suivante. « Mais pourquoi allez-vous l'aimer, Miss Cathy ?»« Par quelle folie, je l'aime, cela suffit. »« Ah, nullement, dites pourquoi. »« Eh bien, parce qu'il est beau et qu'il est agréable d'être avec lui. »« Mauvais, déclarai-je. »« Et parce qu'il est jeune et gai, mauvais aussi. » Mais parce qu'il m'aime. Oh, ceci est indifférent. Et puis il sera riche, et j'aimerais être la plus grande dame du voisinage, et je serais fière d'avoir un tel mari. Voilà le pire de tout. Et maintenant, dites comment vous l'aimez. Comme chacun aime. Vous êtes niaise, Nelly. Pas du tout, répondez. J'aime le sol sous ses pieds et l'air sur sa tête et tout ce qu'il touche et tout ce qu'il dit. J'aime tous ses regards et toutes ses actions et lui tout entier. Voilà. Et pourquoi? Ah non, vous en faites une plaisanterie. C'est très méchant. Ce n'est pas une plaisanterie pour moi, dit la jeune dame en se renfrognant et en se retournant vers le feu. « Je suis loin de plaisanter, Miss Catherine, répondis-je. Vous aimez Monsieur Edgar parce qu'il est beau et jeune et riche et qu'il vous aime. Ce dernier trait pourtant n'a pas d'importance, car il est probable que vous l'aimeriez sans cela et que même avec cela, vous ne l'aimeriez pas s'il ne possédait pas les autres qualités. Oui, cela est sûr. J'aurais seulement pitié de lui ou peut-être je le haïrais s'il était laid et grotesque. » Mais il y a plusieurs autres jeunes gens beaux et riches dans le monde. Il y en a de plus beaux et de plus riches que lui. Qu'est-ce qui vous empêcherait de les aimer? S'il y en a, ils sont hors de mon chemin. Je n'en ai rencontré aucun comme Edgar. Vous pourrez en rencontrer. Et puis Edgar ne sera pas toujours beau ni jeune. Il ne peut pas toujours être riche. Il l'est maintenant et je n'ai affaire qu'au présent. Je voudrais que vous parliez d'une façon un peu raisonnable. Eh bien, ceci tranche la question. Si vous n'avez affaire qu'au présent, mariez-vous avec M. Linton? J'ai pas besoin de votre permission pour cela. À coup sûr, il faut que je me marie avec lui. Mais vous ne m'avez pas encore dit si j'avais raison. Parfaitement raison si on a raison de se marier seulement pour le présent. Et maintenant, dites-moi de quoi vous pouvez être malheureuse. Votre frère sera enchanté. La vieille dame et le vieux monsieur ne feront pas d'objection, je pense. Vous vous échapperez d'une maison incommode et en désordre pour aller dans une autre qui sera riche et respectable. Et vous aimez Edgar, et Edgar vous aime. Tout semble simple et facile, où donc est l'obstacle? Ici et là, répondit Cathy, mettant une main sur son front et l'autre sur sa poitrine. Dans l'endroit quel qu'il soit où demeure l'âme. Dans mon âme et dans mon cœur, je suis convaincu que j'ai tort. Voilà qui est bien étrange, je ne vous comprends pas. C'est mon secret. Mais si vous voulez ne pas vous moquer de moi, je vous l'expliquerai. Je ne puis le faire distinctement, mais je vous donnerai un sentiment de ce que je sens. Elle s'assit de nouveau près de moi, sa figure était devenue plus triste et plus grave, et ses mains jointes tremblaient. Nelly, est-ce qu'il vous arrive de rêver des rêves bizarres? Dit-elle tout à coup après quelques minutes de réflexion. Oui, de temps à autre, répondis-je. Et à moi aussi. J'ai rêvé dans ma vie des rêves qui depuis ne m'ont jamais quitté et ont changé mes idées. Ils se sont infiltrés en moi partout, comme le vin dans l'eau, et ils ont altéré la couleur de mon esprit. Voici, je vais vous le dire. Mais prenez bien soin de ne sourire d'aucune de ces parties. Bon, ne me le dites pas, Miss Cathy, criai-je. Notre vie est déjà assez lugubre, sans qu'il y ait encore besoin d'appeler des fantômes et des visions pour nous tourmenter. Allons, allons, soyez gais, et pareil à vous-même. Regardez le petit Hareton, il ne rêve de rien de terrible, comme il sourit doucement dans son sommeil. Oui, et comme son père jure doucement dans sa solitude. Vous le rappelez, n'est-ce pas, quand il était juste semblable à cette petite chose joufflue, à peu près aussi jeune et aussi innocent. Et pourtant, Nelly, je veux vous obliger à m'écouter. Mon histoire n'est pas longue, je ne me sens pas la force d'être gaie cette nuit. Je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'entendre, répétai-je vivement. J'étais alors superstitieuse au sujet des rêves, et je le suis encore. Et puis Catherine avait dans son aspect quelque chose de sombre et d'anormal qui me fit craindre un récit où je verrais une prophétie ou la prédiction d'une terrible catastrophe. Elle fut vexée, mais ne continua pas. Il me semble qu'elle choisissait un autre sujet, et je l'entendis reprendre quelques minutes après. « Oh, si j'étais au ciel, Nelly, je serais extrêmement misérable. » Parce que vous n'êtes pas digne d'y aller, répondis-je. Tous les pécheurs seraient misérables dans le ciel. Mais ce n'est pas du tout pour cela. J'ai une fois rêvé que j'y étais. Je vous répète que je ne veux pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais aller me coucher, l'interrompis-je de nouveau. Elle rit et me retint car j'avais fait un mouvement pour me lever. Non, ce n'est rien, me dit-elle. Je voulais seulement vous dire que le ciel ne m'avait pas paru être ma maison et que je me brisais le cœur à pleurer pour revenir sur la terre et que les anges en ont été si irrités qu'ils m'ont chassé du ciel et jeté sur la bruyère tout en haut d'ici, et que je me suis éveillé en tressaillant de joie. Ceci suffira pour vous expliquer mon secret. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'aller dans le ciel. Et si le méchant homme d'ici n'avait pas mis Heathcliff dans un état si bas, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader que d'épouser Heathcliff maintenant, de sorte qu'il ne saura jamais combien je l'aime, et cela non pas parce qu'il est beau, Nelly, parce qu'il est plus moi que moi-même. De quelque substance que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente de la nôtre qu'un rayon de lune d'un éclair ou de la glace du feu. Avant que ce discours ne fût fini, je m'étais aperçu de la présence d'Heathcliff. Le bruit d'un léger mouvement m'avait fait tourner la tête, et je l'avais vu se lever de son banc et sortir sans bruit. Il avait écouté jusqu'au moment où il avait entendu Catherine dire qu'il serait dégradant pour elle de se marier avec lui, et à ce moment il était parti sans en entendre davantage. Ma compagne, assise à terre, n'avait pu remarquer ni sa présence ni son départ. Mais moi, je fis un mouvement et lui imposai silence. « Pourquoi cela ? » demanda-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Voici Joseph qui arrive, prenant occasion du bruit des roues sur la route, et Heathcliff va rentrer avec lui. » Je me demande si, en ce moment même, il n'était pas à la porte. Oh, il est impossible qu'il m'ait écouté à la porte, dit-elle. Donnez-moi, Harton, pendant que vous préparez le souper, et quand vous aurez fini, invitez-moi à souper avec vous. J'ai besoin de tricher avec ma conscience troublée et d'être convaincu que Heathcliff n'a aucune idée de ces choses. Il n'en a aucune, n'est-ce pas ? Il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne sache pas aussi bien que vous, dis-je. Et si c'est vous qui êtes son choix, il sera la créature la plus malheureuse qui jamais soit née. Dès que vous deviendrez Madame Linton, il perdra amitié et amour et tout. Vous êtes-vous demandé comment vous supporteriez la séparation et comment lui supporterait d'être tout à fait abandonné dans le monde ? Parce que Miss Catherine... Oh, lui, tout à fait abandonné, nous séparer, s'écria-t-elle d'un accent indigné. Et qui donc pourra nous séparer, je vous prie ? Non pas. Aussi longtemps que je vivrai, Hélène... Aucune créature mortelle n'y parviendra. Tous les Linton à la face du globe pourront s'anéantir avant que je consente à abandonner Heathcliff. Oh, ce n'est pas cela que j'entends. Ce n'est pas cela que je veux dire. Je ne voudrais pas être Madame Linton à ce prix. Il sera autant pour moi qu'il a toujours été. Edgar devra se défaire de son antipathie. Et le tolérer, tout au moins. Et c'est ce qu'il fera, quand il saura mes véritables sentiments vers lui, Nelly. Je le vois maintenant. Vous me trouvez une misérable égoïste. Mais avez-vous jamais songé que si Heathcliff et moi nous marions, nous serions des mendiants, tandis que si je me marie avec Linton, je puis aider Heathcliff à s'élever et le mettre en dehors du pouvoir de mon frère. Avec l'argent de votre mari, Miss Catherine, et vous ne trouverez pas votre mari aussi docile que vous le pensez, et bien que je puisse à peine en juger, je crois que ceci est le pire des motifs que vous m'avez donné pour devenir la femme du jeune Linton. Ce n'est pas vrai, répondit-elle, c'est le meilleur. Mais ce n'est pas vrai, répondit-elle, c'est le meilleur. Les autres, était la satisfaction de mes caprices, et aussi pour Edgar, pour le satisfaire. Celui-là, au contraire, est pour le bien d'une personne qui comprend en elle mes sentiments envers Edgar et envers moi-même. Je ne peux pas l'exprimer, mais sûrement, vous et chacun, vous avez l'idée qu'il y a ou qu'il doit y avoir, en dehors de vous, une existence qui est encore la vôtre. Alors à quoi me servirait-on d'exister si j'étais tout entière contenu dans mon corps? Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances d'Heathcliff, et j'ai guetté et senti chacune d'elles depuis le commencement. Ma grande pensée dans ma vie, c'est lui seul. Si tout le monde périssait, si lui restait, je continuerais à exister. Et si tout le reste subsistait et que lui fût anéanti, le monde entier me deviendrait étranger. Il ne me semblerait plus en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Je sens que le temps le changera seulement comme l'hiver change les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble à ces éternels rochers d'en bas. Il est une faible source de plaisir sensible, mais il est nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours, toujours dans mon esprit. Non pas comme un plaisir pour moi-même, mais comme mon être propre. Ainsi, ne parlez plus de notre séparation. Elle est impraticable et... Elle s'arrêta et cacha son visage dans les plis de ma jupe, mais je la repoussai vivement, impatientée de sa folie. Si je puis tirer un sens de vos non-sens, miss, dis-je, c'est seulement pour me convaincre que vous êtes ignorante des devoirs que vous entreprenez en vous mariant, ou bien que vous êtes une jeune fille méchante et sans principe. Mais ne m'embarrassez plus de nouveaux secrets. Je ne vous promettrai pas de les garder. Ah, vous garderez celui-là ? Demanda-t-elle d'un air inquiet. Non, non, je ne puis vous le promettre, répétai-je. Elle était sur le point d'insister lorsque l'entrée de Joseph mit une fin à notre conversation. Catherine s'assit dans un coin et se mit à verser Ayrton pendant que je faisais le souper. Quand le souper fut prêt, l'autre servante et moi commençâmes à nous quereller pour savoir qui se chargerait d'emporter une portion à M. Hindley. Et la querelle ne fut pas tranchée avant que le souper ne fût devenu à peu près froid. Nous convînmes alors de lui demander d'abord s'il voulait avoir le souper, car nous craignions tout particulièrement d'arriver en sa présence, car il avait été seul quelque temps. Mais comment se fait-il qu'il ne soit pas revenu du champ à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il peut faire, ce vilain paresseux? Demanda le vieux Joseph, cherchant les yeux Heathcliff. Bon, je vais l'appeler, répondis-je, il est dans la grange, j'en suis sûr. J'allais, je l'appelais, mais je n'eus pas de réponse. En revenant dans la cuisine, je murmurai tout bas à Catherine qu'il avait entendu une bonne partie de ce qu'elle avait dit, que j'en étais sûr. Et je lui racontai comment je l'avais vu quitter la cuisine juste au moment où elle se plaignait de la conduite de son frère envers lui. Épouvantée, elle s'élança, jeta l'enfant sur le banc, et courut elle-même chercher son amie sans prendre le loisir de se demander pourquoi elle était si émue ou de quelle façon ses paroles avaient dû affecter Heathcliff. Elle resta absente si longtemps que Joseph proposa de ne plus attendre. Il conjectura ingénieusement que les deux jeunes gens restaient dehors pour éviter d'entendre ses interminables bénédictions. Il affirma qu'ils étaient assez mauvais pour avoir toutes les vilaines manières. Et il ajouta à leur intention, ce soir-là, une prière spéciale à celle qu'ils avaient l'habitude de débiter pendant un quart d'heure avant les repas. Je crois même qu'il en aurait entamé une autre encore aux grâces si sa jeune maîtresse s'était précipitée vers lui, lui ordonnant de courir bien vite le long de la route, de découvrir Heathcliff en quelque endroit qu'il fût allé et de le faire aussitôt rentrer. « Mais j'ai besoin de lui parler, il le faut, avant que je remonte, dit-elle. La porte est ouverte, il doit être quelque part, très loin, car il n'a pas répondu, bien que j'ai crié du haut du parc à mouton aussi fort que j'ai pu. Joseph commença par faire des objections, mais la jeune fille paraissait d'humeur trop sérieuse pour souffrir la contradiction, si bien qu'à la fin, il mit son chapeau sur sa tête et s'en alla en grommelant. Pendant ce temps, Catherine marchait de long en large dans la pièce, s'écriant « Mais où est-il? Où peut-il être? Mais qu'est-ce donc que je vous ai dit, Nelly? Je l'ai oublié. A-t-il été vexé de ma mauvaise humeur cet après-midi? Ma chère, dites-moi ce que j'ai dit pour le chagriner. Je voudrais qu'il soit revenu. Je le voudrais vraiment. » « Que de bruit pour rien, lui dis-je, tout en me sentant moi-même mal à l'aise. Mais quelle bagatelle pour vous mettre hors de vous! Il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer beaucoup si Heathcliff s'est offert une flânerie au clair de lune sur la lande, ou même s'il est allé se coucher dans le grenier à foin, se trouvant en maussade pour causer avec nous. Je parierais qu'il est en train d'y dormir. » Vous allez voir si je ne l'y déniche pas. Je partis pour renouveler mes recherches, mais il n'en résulta que du désappointement et les recherches de Joseph eurent le même effet. Le gaillard va de mal en pis, observa-t-il en rentrant. Il a laissé la porte grande ouverte et le poney de mie s'est sorti, a démoli deux pièces de blé en marchant à travers et s'en est allé tout droit dans le pré. Vous verrez, le maître va faire tous les diables demain, il aura raison. Il a la patience même pour d'aussi insouciantes et méchantes créatures. La patience même, mais il ne sera pas toujours ainsi, vous le verrez bien vous tous. Pour tout au monde, vous devriez éviter de le mettre hors de lui. Mais avez-vous trouvé Heathcliff, vieil âne que vous êtes, interrompit Catherine. L'avez-vous cherché comme je vous l'ai ordonné? J'aurais bien plutôt chercher le cheval, répondit-il, c'eût été plus sensé. Mais impossible de chercher ni un homme ni un cheval par une nuit comme celle-ci, noire comme une cheminée. Et Heathcliff n'a pas fait un signe pour venir à mon coup de sifflet. Possible qu'il soit moins dur d'oreille avec vous. La soirée était vraiment très sombre pour un jour d'été. Les nuages semblaient amonceler le tonnerre, et je déclarais qu'il valait mieux que nous restions tous assis. La pluie qui approchait ne manquerait pas de le ramener à la maison sans aucun embarras. Pourtant, il n'y eut pas moyen de persuader à Catherine de se tranquilliser. Elle continuait à errer çà et là, de la porte de la maison à celle de la cuisine, dans un état d'agitation qui n'admettait pas de repos. Elle finit par s'installer en permanence d'un côté du mur près de la route, et là, indifférente à mes remontrances et au tonnerre qui devenait plus fort et aux larges gouttes qui commençaient à battre le sol autour d'elle, elle restait, appelant de temps à autre, puis écoutant et puis pleurant de toutes ses forces. Ni Hareton ni aucun enfant n'aurait su avoir une crise de larmes aussi parfaite. Vers minuit, tandis que nous étions encore sur pied, l'orage s'abattit en pleine furie sur la maison. Il y eut un vent violent avec de forts coups de tonnerre, et, soit par le vent, soit par la foudre, un arbre fut fendu au coin du bâtiment. Une énorme branche tomba sur le toit, renversa une partie de la cheminée de l'est, et projeta dans le foyer de la cuisine des éclats de pierre et de suie. Nous crûmes que la foudre même était tombée au milieu de nous. Joseph se jeta à genoux, suppliant le Seigneur de se rappeler Noé et Lot, et comme autrefois d'épargner les bons en écrasant les impies. Moi-même, j'eus un peu le sentiment que c'était un jugement du ciel à notre adresse. Le coupable dans mon esprit était M. Earnshaw, et je me mis à secouer le loquet de sa tanière pour m'assurer s'il était encore en vie. Il me répondit assez bruyamment, et d'une façon qui fit encore crier plus fort qu'auparavant par mon compagnon qu'il fallait faire une large distinction entre les saints tels que lui et les pécheurs tels que son maître. Mais la tempête se passa en 20 minutes, nous laissant tous intacts, à l'exception de Cathy, qui se trouva toute mouillée dans son obstination à refuser de s'abriter et à rester debout sans bonnet et sans châle pour recevoir autant d'eau que possible sur ses cheveux et ses vêtements. Enfin, elle rentra et s'étendit sur le banc, toute trempée, tournant sa figure de l'autre côté et la cachant entre ses mains. « Eh bien, miss, criai-je, touchant son épaule, vous avez donc juré de nous faire mourir. Mais savez-vous quelle heure il est ? Minuit et demi. Allez, venez, venez au lit. Rien ne servirait d'attendre plus longtemps, ce stupide garçon. Bien sûr qu'il sera allé à Jim Hurton et qu'il y est à présent. Il croit que nous ne l'aurons pas attendu si tard, ou du moins que M. Hindon reste seul debout, et il aime mieux éviter de se voir ouvrir la porte par le maître. Non, non, il n'est pas à Jim Hurton, dit Joseph. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il est au fond d'une fondrière. Cette vision céleste n'a pas été sans raison, et je vous conseille de prendre garde, miss. Ça pourra bien être votre tour la prochaine fois. Remercions Dieu pour toutes ces choses. Tout travaille ensemble au bien de ceux qui sont choisis. Vous savez ce que dit l'Écriture. Et il se mit à citer différents textes, nous renvoyant au chapitre et au verset où nous pourrions les trouver. Après avoir vainement supplié l'obstinée jeune fille de se lever et de retirer ses effets tout mouillés, je me décidai à laisser Joseph prêcher et elle frissonner, et je m'en allai me coucher avec le petit Hareton, qui dormit aussi solidement que si tout le monde dormait autour de lui. J'entendis Joseph continuer à lire un moment, puis monter lentement l'échelle, et alors je m'endormis. Le lendemain, étant descendu un peu plus tard que d'ordinaire, je vis au rayon du soleil, pénétrant à travers les ventes des volets, Miss Catherine encore assise auprès de la cheminée. La porte de la maison était entr'ouverte, la lumière entrait par ses fenêtres sans volets. Hindley était descendu et se tenait au foyer de la cuisine, hagard et somnolent. « Qu'est-ce qui vous fait mal, Cathy ?» était-il en train de dire au moment où j'entrais. « Vous avez l'air aussi misérable qu'un petit chouin noyé. Pourquoi êtes-vous si pâle et si abattu, enfant ?»« Non, je me suis mouillé, » répondit-elle avec répugnance, « et j'ai froid, voilà tout. » Oh, c'est sa faute à elle-même, criai-je, en voyant que le maître était ce matin assez sobre. Elle est restée exposée à toute l'averse d'hier soir, et elle s'est tenue assise ici toute la nuit. Il m'a été impossible de la déterminer à monter. Monsieur Alshaw nous regardait avec surprise. Toute la nuit ? Répétait-il. Qu'est-ce qui a pu la tenir debout ? C'est pas la peur de la foudre, à coup sûr, car il y a des heures que l'orage est passé. Personne de nous n'avait envie de mentionner l'absence de Heathcliff, aussi longtemps qu'il serait possible de la cacher. De sorte que je répondis que je ne savais pas pourquoi elle s'était mis dans la tête de ne pas se coucher. Et elle-même ne dit rien. La matinée était fraîche, j'ouvris la fenêtre et la chambre s'emplit des douces odeurs du jardin. Mais Catherine me cria d'un air fâché, « Hélène, ferme la porte, je me meurs de froid !» Et ses dents claquaient, tandis qu'elle se pelotonnait encore aux cendres à peu près éteintes. « Mais elle est malade, » dit Hindley, lui prenant le poignet. « Je suppose que c'est la raison pourquoi elle n'a pas voulu se coucher. » « Oh, que le diable emporte, j'ai pas besoin d'être ennuyé par une nouvelle maladie ici. »« Qu'est-ce qui vous a fait vous exposer à la pluie ? C'est de courir après les garçons, comme toujours, grogna Joseph, profitant de notre hésitation pour mettre en jeu sa mauvaise langue. Oh, si j'étais de vous, maître, je leur fermerais la porte au nez à eux tous, simples et gentils comme ils sont. Jamais vous ne pouvez sortir sans que ce chat de Linton n'arrive rampé par ici. Et Miss Nelly, ah, voilà encore une aimable fille. Elle reste assise à vous attendre dans la cuisine, et quand vous entrez par une porte, elle sort par l'autre. Et alors notre grande dame s'en va se faire faire la cour de son côté. Voilà une conduite exemplaire de rôder dans les champs après minuit avec ce vilain diable de gypsy de Heathcliff. Il croit que je suis aveugle, mais je ne suis pas, non, rien de la sorte. J'ai vu le jeune Linton venir et repartir, et je vous ai vu, vous, il s'adressait maintenant à moi, vous, le bon à rien, méchante sorcière, à courir dans la maison dès que vous avez entendu le pas du cheval du maître résonner sur la route. Mais silence, écouteur ou portre, cria Catherine. Pas de ces insolences devant moi. C'est par hasard qu'Edgar Linton est venu hier, Hindley. Et c'est moi qui lui ai dit de s'en aller, parce que je savais que vous n'aimeriez pas qu'il vous vit dans l'état où vous étiez. Mais vous mentez, Catherine. Cela est sûr, répondit son frère. Et vous êtes une nièce damnée. Mais laissons de côté Linton pour le moment. Et dites-moi si vous n'étiez pas avec Heathcliff la nuit dernière. Allons, dites la vérité. Ne craignez pas de lui nuire, car bien que je le haïsse autant que jamais, il m'a rendu service en sauvant mon fils, et cela attendrit assez ma conscience pour m'empêcher de lui casser le cou. Pour prévenir cet événement, je vais l'envoyer à son travail ce matin même, et après qu'il sera parti, je vous conseille à tous de prendre garde, et je n'aurai que plus d'humeur pour vous. Je n'ai pas vu Heathcliff la nuit dernière, répondit Catherine, commençant à sangloter amèrement. Et si vous le chassez, je partirai avec lui. Mais peut-être n'en aurez-vous jamais l'occasion. Peut-être est-il déjà parti. Mais là-dessus, elle éclata, sous un accès de douleur qu'elle ne put retenir, et le reste de ses paroles fut à peine articulé. Hindley versa sur elle un torrent d'injures méprisantes et lui ordonna de s'en aller aussitôt dans sa chambre si elle ne voulait pas avoir des raisons sérieuses de pleurer. Je la contraignis à obéir et jamais je n'oublierai la scène qu'elle fit lorsque nous arrivâmes dans sa chambre. Elle m'épouvanta. Je crus qu'elle devenait folle et je priai Joseph de courir chercher le médecin. Il se trouva que c'était le commencement du délire. M. Kenneth, dès qu'il la vit, la déclara dangereusement malade d'une fièvre. Il la soigna et me dit de la nourrir seulement de petits laits et de tisane et de prendre garde qu'elle ne se jette pas la tête la première par la fenêtre ou par l'escalier. Après quoi, il s'en alla, car il avait fort à faire dans la paroisse où les cottages étaient ordinairement séparés l'un de l'autre de 2 ou 3 miles. Bien que je ne puisse pas dire que j'ai été une garde-malade bien douce, et bien que Joseph et notre maître ne valussent guère mieux, et bien que notre malade elle-même fût aussi fatigante et entêtée qu'un malade peut l'être, elle finit pourtant par aller mieux résister. La vieille Madame Linton nous a fait plusieurs visites, et c'est elle, à vrai dire, qui fit marcher les choses comme il fallait, grondant et dirigeant chacun de nous. Puis, lorsque Catherine fut convalescente, elle insista pour l'emmener à Sussex Lodge, et nous lui fûmes tous reconnaissants de cette délivrance. Mais la pauvre dame eut à se repentir de sa bonté, car elle et son mari prirent tout de la fièvre, et moururent à peu de jours l'un de l'autre. Notre jeune dame nous revint plus insolente et plus passionnée et plus hautaine que jamais. Heathcliff n'avait plus donné signe de vie depuis le soir de l'orage. Et un jour qu'elle m'avait agacé plus que de coutume, j'eus le malheur de lui dire, ce qu'elle savait d'ailleurs être vrai, que c'était elle qui avait été cause de son départ. Depuis ce moment, pendant plusieurs mois, elle cessa d'avoir avec moi toute communication autre que celle que l'on a avec des domestiques. Joseph fut traité de la même façon. Il voulait continuer à parler à sa guise et à la prêcher comme quand elle était une petite fille, et elle s'estimait à présent une femme et notre maîtresse, et elle pensait que sa récente maladie lui donnait le droit d'être encore traitée avec plus d'égard. Le médecin avait dit qu'il ne fallait pas la contrarier. Il fallait donc la laisser faire. Et ce n'est pas moins qu'un meurtre à ses yeux de prétendre à lui résister et à la contredire. Elle se tenait à l'écart de M. Hutzhall et de ses compagnons. Conseillée par Kenneth et terrifiée par la perspective des accès qui accompagnaient souvent ses colères, son frère lui accordait tout ce qu'il lui plaisait de demander et évitait généralement de gêner son humeur. Il était plutôt trop indulgent pour ses caprices, non par affection mais par vanité, car il désirait ardemment l'avoir apporté de l'honneur à la famille par une alliance avec les Linton. Et pourvu seulement qu'elle le laissât tranquille, il lui permettait de marcher sur nous comme un des esclaves. Edgar Linton, comme bien d'autres, ont été avant lui et seront après lui, était infatué de lui-même. Il s'imaginait être l'homme le plus heureux du monde le jour où il la conduisit à la chapelle de Gimmerton, 3 ans après la mort de son père. Tout à fait contre mon désir, je dus me décider à quitter les hauts de Hurlevent et à l'accompagner ici. Le petit Harrington avait à peu près 5 ans, et je venais précisément de commencer à lui apprendre ses lettres. Notre séparation fut triste, mais les larmes de Catherine eurent plus de pouvoir que les nôtres. Quand elle vit que je refusais de partir et que ses prières ne me touchaient pas, elle alla se lamenter auprès de son mari et de son frère. Le premier m'offrit des gages abondants. Le second m'ordonna de faire mes paquets, disant qu'il n'avait plus besoin de femme dans sa maison, maintenant qu'il n'y avait plus de maîtresse, et que, en ce qui touchait Harrington, le curé l'entreprendrait de temps en temps. Et ainsi, je n'avais pas à choisir, il me fallait faire comme on voulait. Je dis au maître qu'il se débarrassait de tout ce qu'il y avait de convenable dans sa maison, seulement pour courir un peu plus vite à sa ruine. J'embrassai Harrington, je lui dis adieu, et depuis ce temps il a toujours été un étranger pour moi. Et c'est très bizarre à penser, mais j'ai pas de doute qu'il a aujourd'hui tout oublié des Landin, et qu'il ne sait plus qu'il a été un moment plus que le monde entier pour elle et pour lui. À ce point de son récit, ma ménagère jeta par hasard un coup d'œil sur la pendule de la cheminée et fut ébahie en s'apercevant qu'il était 1h30. Elle ne voulut pas entendre parler de rester une seconde de plus, et en vérité, moi-même, je me sentais assez disposé à ajourner la suite de sa narration. Et maintenant qu'elle est allée se reposer et que j'ai encore médité 1 ou 2 heures, je vais trouver le courage d'aller me coucher moi aussi, en dépit de la lourdeur douloureuse de ma tête et de mes membres. Vers minuit, tandis que nous étions encore sur pied, l'orage s'abattit en pleine furie sur la maison. Il y eut un vent violent avec de forts coups de tonnerre, et soit par le vent, soit par la foudre, un arbre fut fendu au coin du bâtiment. Une énorme branche tomba sur le toit, renversa une partie de la cheminée de l'est et projeta dans le foyer de la cuisine des éclats de pierre et de suie. Nous crûmes que la foudre même était tombée au milieu de nous. Joseph se jeta à genoux, suppliant le Seigneur de se rappeler Noé et Lot, et comme autrefois d'épargner les bons en écrasant les impies. Moi-même, j'eus un peu le sentiment que c'était un jugement du ciel à notre adresse. Le coupable dans mon esprit était M. Holshow. Je me mis à secouer le loquet de sa tanière pour m'assurer s'il était encore en vie. Il me répondit assez bruyamment et d'une façon qui fit encore crier plus fort qu'auparavant par mon compagnon qu'il fallait faire une large distinction entre les saints tels que lui et les mécheurs tels que son maître. Mais la tempête se passa en 20 minutes, nous laissant tous intacts à l'exception de Cathy, qui se trouva toute mouillée dans son obstination à refuser de s'abriter et à rester debout sans bonnet et sans châle pour recevoir autant d'eau que possible sur ses cheveux et ses vêtements. Enfin, elle entra et s'étendit sur le banc, toute trempée, tournant sa figure de l'autre côté et la cachant entre ses mains. « Eh bien, miss, criai-je, touchant son épaule, vous avez donc juré de vous faire mourir. Savez-vous quelle heure il est ? Minuit et demi ? Venez, venez au lit. Rien ne servirait d'attendre plus longtemps, ce stupide garçon. Bien sûr qu'il sera allé à Gimmerton et qu'il y est à présent. Il croit que nous ne l'aurons pas attendu si tard, ou du moins que M. Hindley reste seul debout, et il est mieux évité de se voir ouvrir la porte par le maître. « Non, non, il n'est pas à Gimmerton, » dit Joseph. « Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il est au fond d'une fondrière. Cette visitation céleste n'a pas été sans raison. Je vous conseille de prendre garde, miss, ça pourrait bien être votre tour la prochaine fois. Remercions Dieu pour toutes ces choses. » Tout travaille ensemble au bien de ceux qui sont choisis. Vous savez ce que dit l'Écriture. » Et il se mit à citer différents textes, nous renvoyant au chapitre et au verset où nous pourrions les trouver. Après avoir vainement supplié l'obstinée jeune fille de se lever et de retirer ses effets tout mouillés, je me décidai à laisser Joseph prêcher et elle frissonner, et je m'en allai me coucher avec le petit Hareton, qui dormit aussi solidement que si tout le monde dormait autour de lui. J'entendis Joseph continuer à lire un moment, puis monter lentement l'échelle, et alors je m'endormis. Le lendemain, étant descendu un peu plus tard que d'ordinaire, je vis au rayon du soleil pénétrant à travers les fentes des volets Miss Catherine encore assise auprès de la cheminée. La porte de la maison était entr'ouverte, la lumière entrait par les fenêtres sans volets. Hindley était descendu et se tenait au foyer de la cuisine, hagard et somnolent. « Qu'est-ce qui vous fait mal ?» Cathy était-il en train de dire au moment où j'entrais. « Vous avez l'air aussi misérable qu'un petit chien noyé. Pourquoi êtes-vous si pâle et si abattu, enfant ?»« Je me suis mouillé, » répondit-elle avec répugnance, « et j'ai froid, voilà tout. »« Oh, c'est sa faute à elle-même, » m'écriai-je en voyant que le maître était ce matin-là assez sombre. Elle est restée exposée à toute l'averse d'hier soir, et elle s'est tenue assise ici toute la nuit. Il m'a été impossible de la déterminer à monter. Monsieur Holshow nous regardait avec surprise. « Toute la nuit ? » répétait-il. « Mais qu'est-ce qui a pu la tenir debout ? Ce n'est pas la peur de la foudre à coup sûr, car il y a des heures que l'orage est passé. » Personne de nous n'avait envie de mentionner l'absent de Heathcliff, aussi longtemps qu'il serait possible de la cacher, de sorte que je répondis que je ne savais pas pourquoi elle s'était mise dans la tête de ne pas se coucher, et elle-même ne dit rien. La matinée était fraîche. J'ouvris la fenêtre et la chambre s'emplit des douces odeurs du jardin. Mais Catherine me cria d'un air fâché, Hélène, fermez la porte, je me meurs de froid. » Et ses dents claquaient, tandis qu'elle se pelotonnait encore aux cendres à peu près éteintes. « Elle est malade, » dit Hindley, lui prenant le poignet. « Je suppose que c'est la raison pourquoi elle n'a pas voulu se coucher. »« Que le diable l'emporte, je n'ai pas besoin d'être ennuyé par une nouvelle maladie ici. » « Qu'est-ce qui vous a fait vous exposer à la pluie ?»«
Bon, c'est de courir après les garçons, comme toujours, » grinça Joseph, profitant de notre hésitation pour mettre en jeu sa mauvaise langue. « Si j'étais de vous, maître, je leur fermerais la porte au nez à eux tous, simples et gentils comme ils sont. Jamais vous ne pouvez sortir sans que ce chat de Linton n'arrive frampé par ici. Et Miss Nelly, voilà encore une aimable fille, elle reste assise à vous attendre dans la cuisine, et quand vous entrez par une porte, elle sort par l'autre. Et alors notre grande dame s'en va se faire faire la cour de son côté. Voilà une conduite exemplaire de rôler dans les champs après minuit, avec ce vilain diable de gypsy de Heathcliff. Il croit que je suis aveugle, mais je suis pas en rien de la sorte. J'ai vu le jeune Linton venir et repartir, et je vous ai vu, vous. » Il s'adressait maintenant à moi. « Vous, bonne à rien, méchante sorcière, à courir dans la maison dès que vous avez entendu le pas du cheval du maître résonner sur la route. »«
Silence, écoutez aux portes, » cria Catherine, « pas de ces insolences avec moi. C'est par hasard qu'Edgar Linton est venu hier, Hindley, et c'est moi qui lui ai dit de s'en aller, parce que je savais que vous n'aimeriez pas qu'il vous vit dans l'état où vous étiez. »
« Vous mentez, Catherine, cela est sûr, » répondit son frère, « et vous êtes une nièce damnée. Mais laissons de côté Linton pour le moment, et dites-moi si vous n'étiez pas avec Heathcliff la nuit dernière. Allons, dites la vérité. Ne craignez pas de lui nuire, car bien que je le haïsse autant que jamais, il m'a rendu service en sauvant mon fils, et cela attendrit assez ma conscience pour m'empêcher de lui casser le cou. Pour prévenir cet événement, je vais l'envoyer à son travail ce matin même, et après qu'il sera parti, je vous conseille à tous de prendre garde, je n'en aurai que plus d'humeur pour vous. »
« Je n'ai pas vu Heathcliff la nuit dernière, » répondit Catherine, commençant à sangloter amèrement. « Et si vous le chassez, je partirai avec lui. Mais peut-être n'en aurez-vous jamais l'occasion. » Peut-être est-il déjà parti. »
Là-dessus, elle éclata, sous un accès de douleur qu'elle ne put retenir, et le reste de ses paroles fut à peine articulé. Hindley versa sur elle un torrent d'injures méprisantes, et lui ordonna de s'en aller aussitôt dans sa chambre, si elle ne voulait pas avoir des raisons sérieuses de pleurer. Je la contraignis à obéir, et jamais je n'oublierai la scène qu'elle fit lorsque nous arrivâmes dans sa chambre. Elle m'épouvanta. Je crus qu'elle devenait folle, et je priai Joseph de courir chercher le médecin. Il se trouva que c'était le commencement du délire. Monsieur Kenneth, dès qu'il la vit, la déclara dangereusement malade d'une fièvre. Il la soigna et me dit de la nourrir seulement de petit lait et de tisane et de prendre garde qu'elle ne se jette pas la tête la première par la fenêtre ou par l'escalier. Après quoi, il s'en alla car il avait fort affaire dans la paroisse où les cottages étaient ordinairement séparés l'un de l'autre de 2 ou 3 milles. Bien que je ne puisse pas dire que j'ai été une garde malade bien douce, et bien que Joseph et notre maître ne valussent guère mieux, et bien que notre malade elle-même fût aussi fatigante et entêtée qu'un malade peut l'être, elle finit pourtant par aller mieux résister. La vieille Madame Linton nous fit plusieurs visites, et c'est elle, à dire vrai, qui fit marcher les choses comme il fallait, grondant et dirigeant chacun de nous. Puis, lorsque Catherine fut convalescente, elle assista pour l'emmener à Thrushcross Grange, et nous lui fûmes tous reconnaissants de cette délivrance. Mais la pauvre dame eut à se repentir de sa bonté, car elle et son mari prirent tous deux la fièvre et moururent à peu de jours l'un de l'autre. Notre jeune dame nous revint plus insolente et plus passionnée, plus hautaine que jamais. Heathcliff n'avait plus donné signe de vie depuis le soir de l'orage. Et un jour qu'elle m'avait agacé plus que de coutume, j'eus le malheur de lui dire, ce qu'elle savait d'ailleurs être vrai, que c'était elle qui avait été cause de son départ. Depuis ce moment, pendant plusieurs mois, elle cessa d'avoir avec moi toute communication autre que celle que l'on a avec des domestiques. Joseph fut traité de la même façon. Il voulait continuer à parler à sa guise et à la prêcher comme quand elle était une petite fille, et elle s'estimait à présent une femme et notre maîtresse, et elle pensait que sa récente maladie lui donnait le droit d'être encore traitée avec plus d'égard. Le médecin avait dit qu'il ne fallait pas la contrarier. Il fallait donc la laisser faire. Mais ce n'était pas moins qu'un meurtre à ses yeux de prétendre lui résister et à la contredire. Elle se tenait à l'écart de M. Henshaw et de ses compagnons. Conseillé par Kenneth et terrifié par la perspective des accès qui accompagnaient souvent ses colères, son frère lui accordait tout ce qu'il lui plaisait de demander, évitait généralement de gêner son humeur. Il était plutôt trop indulgent pour ses caprices, non par affection, mais par vanité, car il désirait ardemment l'avoir apporté de l'honneur à la famille par une alliance avec les Linton, et pourvu seulement qu'elle le laissât tranquille, il lui permettait de marcher sur nous comme sur des esclaves. Edgar Linton, comme bien d'autres ont été avant lui et seront après lui, était infatué de lui-même. Il s'imaginait être l'homme le plus heureux du monde le jour où il la conduisit à la chapelle de Jim Merton, 3 ans après la mort de son père. Tout à fait contre mon désir, je dus me décider à quitter Rushring Heights et à l'accompagner ici. Le petit Harriton avait à peu près 5 ans, et je venais précisément de commencer à lui apprendre ses lettres. Notre séparation fut triste, mais les larmes de Catherine eurent plus de pouvoir que les nôtres. Quand elle vit que je refusais de partir et que ses prières ne me touchaient pas, elle alla se lamenter auprès de son mari et de son frère. Le premier m'offrit des gages abondants, le second m'ordonna de faire mes paquets, disant qu'il n'avait plus besoin de femme dans sa maison maintenant qu'il n'y avait plus de maîtresse, et que, en ce qui touchait Harriton, le curé l'entreprendrait de temps à autre. Et ainsi, je n'avais pas à choisir, il me fallait faire comme on voulait. Je dis au maître qu'il se débarrassait de tout ce qu'il y avait de convenable dans sa maison, seulement pour courir un peu plus vite à sa ruine. J'embrassai Harriton, je lui dis adieu, et depuis ce temps, il a toujours été un étranger pour moi. Et c'est très bizarre à penser, mais je n'ai pas de doute qu'il a aujourd'hui tout oublié d'Ellen Dean, et qu'il ne sait plus qu'il a été un moment plus que le monde entier pour elle et elle pour lui. À ce point de son récit, ma ménagère jeta par hasard un coup d'œil sur la pendule de la cheminée et fut ébahie en s'apercevant qu'il était 1h30. Elle ne voulut pas entendre parler de rester 1 seconde de plus. Et en vérité, moi-même, je me sentais assez disposé à ajourner la suite de sa narration. Et maintenant qu'elle est allée se reposer et que j'ai encore médité 1 heure ou 2, je vais trouver le courage d'aller me coucher moi aussi, en dépit de la lourdeur douloureuse de ma tête et de mes membres.